Bonjour, je suis avec Richard Alexandre du comité légal de l'AC pour parler des aspects juridiques et judiciaires de la grève aujourd'hui. Bonjour Richard.
Bonjour.
Comment l'AC gère la situation actuelle face à différentes pressions politiques et judiciaires qu'on a pu voir dans les dernières semaines et qui semblent avoir affecté le mouvement de grève?
Donc, l'aspect légal, c'est sûr que c'est pas pour nous un outil d'attaque, si vous voulez, c'est un outil de revendication, mais bien sûr, c'est un outil de défense. Par exemple, dans les dernières semaines, c'est indéniable qu'il y a eu plusieurs mesures légales qui ont été prises contre le mouvement étudiant. On peut penser aux injonctions qui ont été demandées à l'UQAM pour empêcher les levées de cours. On peut penser aux personnes qui ont été arrêtées, aux criminels pour avoir levé des levées de cours. On peut penser aussi aux différentes manifestations qui ont été organisées dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et qui ont été réprimées en vertu des règlements municipaux et du Code de la sécurité routière. Donc, l'AC, pour répondre à ces différentes attaques-là, a mis sur pied en 2012 un comité légal dont la fonction est justement de coordonner la défense légale.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de l'injonction et en quoi c'est un vrai obstacle dans la manière traditionnelle de faire la grève ici à Montréal?
Bien sûr. L'injonction, en fait, il faut savoir que c'est un recours légal qui existe depuis plusieurs décennies. C'est quelque chose qui a été souvent utilisé dans les relations de travail, donc quand il y avait, entre autres, des mouvements de grève syndicale et des séances de piquetage, souvent le patronat allait utiliser la demande en injonction afin de faire cesser soit la grève ou faire cesser aussi les piquetages. Donc, une injonction, c'est un recours extraordinaire en vertu du code de procédure civile. Dans le fond, c'est une demande exceptionnelle où est-ce qu'on demande au tribunal d'ordonner à des personnes visées, que ce soit des groupes ou des individus, on demande à ces personnes-là de cesser de faire une activité pour préserver les droits de la personne qui en fait la demande. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, l'UQAM, suite aux mandats de grève qui ont été adoptés dans les dernières semaines, ont fait une demande à la Cour supérieure pour qu'un juge ordonne aux associations étudiantes et à toute personne visée de cesser de faire des levées de cours et de bloquer l'UQAM aussi. Donc, ce que ça a concrètement comme effet, c'est que une fois que cette ordonnance est rendue par le tribunal, une personne qui violerait cette ordonnance, donc qui irait contre cette ordonnance, donc par exemple qui procéderait malgré tout à la levée de cours, pourrait s'exposer à une poursuite pour outrage au tribunal. Et un outrage au tribunal implique d'une part un risque de devoir payer une amende qui peut aller jusqu'à 50 000 $ si je ne m'abuse, mais là c'est de mémoire que je vous dis ça, et pour aller jusqu'à un an d'emprisonnement aussi.
Pour empêcher ce type d'injonction, on a entendu beaucoup de voix s'élever pour encadrer le droit de grève étudiant ou en faire quelque chose de légal. Qu'est-ce que vous en pensez à la CEVU de ces théories-là? J'imagine que vous y réfléchissez par rapport à ça.
Oui, nous autres, notre position à la CEVU est très claire, en fait, c'est de dire que vu la tradition, vu l'histoire du Québec et le fait que le droit de grève, en fait, que la grève a été un moyen très fréquemment utilisé par notamment le mouvement étudiant, nous considérons que légalement, ce droit-là devrait déjà être connu par l'état du droit et par l'état des pratiques actuelles. Il faut savoir que quand les associations étudiantes prennent des décisions d'aller en grève, elles exercent notamment leur droit à la liberté d'association. Et depuis peu, il a été reconnu par la Cour suprême du Canada que la liberté d'association englobait notamment le droit de faire la grève. Pour nous, c'est ça, le droit de grève devrait être déjà reconnu par les tribunaux, vu l'état du droit actuel. Ce n'est pas le cas actuellement, on s'entend, mais pour nous, c'est quelque chose. C'est la première étape de notre raisonnement. Donc, ensuite, pour ce qui a trait à l'encadrement du droit de grève, nous, au comité légal de l'AC, nous sommes définitivement contre cette forme d'encadrement-là. Nous considérons que ce n'est pas à un tiers, soit à l'Assemblée nationale du Québec, de s'ingérer dans les affaires internes de la démocratie étudiante, de la démocratie directe étudiante. Par conséquent, nous considérons plutôt que c'est par le biais des assemblées générales que peuvent être prises les décisions, à savoir quelles seront les modalités pour entrer éventuellement en grève et non pas par le biais d'une loi.
Pour changer un peu de sujet, le SPVN a récemment déclaré que le mouvement de grève de 2015 est plus violent que celui de 2012 Et vous, comment qualifierez-vous l'attitude des forces de police en termes d'arrestation, de règlement, de loi utilisée par rapport à 2012 aussi? Quel constat en tant que institution à institution vous feriez de leur attitude sur ce mouvement de grève en 2015?
Je trouve ça très ironique de la part du SPVM que de faire une déclaration pareille, parce que mon humble avis, c'est d'abord et avant tout la répression policière, donc les interventions policières qui ont été beaucoup plus violentes en 2015 qu'en 2012. C'est-à-dire que, par exemple, bon, si on parle de l'occupation à l'UQAM en 2015, ben il y a eu l'équivalent en 2012 au Cégep du Vieux-Montréal. Pour les manifestations, je veux dire, j'ai pas vu d'affrontement armé, par exemple, entre les manifestants manifestantes et les forces policières. Par contre, d'autre part, j'ai vu un nouvel arsenal utilisé par le SPVM, des nouvelles tactiques d'intervention où on était encore plus agressif dans l'encadrement des manifestations par le SPVM. On a vu aussi des personnes blessées par exemple, la jeune fille, la fille de Québec qui a été, la femme de Québec, pardon, qui a reçu un tir en plein visage. Donc, à mon humble avis, objectivement, il y a un changement qualitatif dans la manifestation pour ce qui serait la partie estudiantine. Par contre, il est indéniable que nous vivons dans une société actuellement où le droit de manifester doit se faire de façon excessivement limitée. Et je pense qu'on peut s'inquiéter aussi sur la santé de notre vie démocratique s'il ne sera même plus possible de pouvoir spontanément exprimer des opinions par rapport à des politiques gouvernementales.
Et du coup, comment, après la défaite de P6 face aux tribunaux 2 ou 3 mois en arrière, le règlement P6 a pu être utilisé autant de fois à nouveau par le SPVM lors des manifestations? Comment les associations, les étudiantes, les associations qui luttent pour les droits et les libertés de manifestation n'ont pas pu définitivement entériner cette loi municipale à l'aube d'un grand mouvement social?
Bien, il faut savoir que la décision, en fait, qui a été rendue par le juge Randall Richmond de la ville de la Cour municipale de Montréal, ne venait pas invalider le règlement P6 comme tel. Cette décision-là venait innocenter des centaines de personnes pour des raisons liées à l'application du règlement. Donc, déjà, dans sa nature, dans sa substance, le règlement reste existant. C'est juste que, bon, on a maintenant d'autres modalités pour l'application. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut plus invoquer certains articles comme le SPVM le faisait systématiquement, donc l'article 2 et 2.1 ne peuvent plus être invoqués pour soutenir l'existence d'une infraction. Il faut plutôt invoquer, si je me souviens bien, c'est l'article 6 ou 7. Donc maintenant, par exemple, il devient possible pour le SPVM de dire qu'il y a une infraction en vertu de l'article 7 du règlement P6.
Okay.
Aussi, différentes modalités au niveau de l'émission comme telle du constat d'infraction qui ont été invalidées par le juge Richmond. Par contre, une fois que le SPVM change sa pratique, il devient possible de pouvoir justement l'appliquer à nouveau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le SPVM actuellement, l'analyse qu'on en fait au comité légal de la C, c'est que pour eux, l'important n'est pas nécessairement de voir déclarer coupable au final, à terme du processus judiciaire, les personnes qui ont manifesté. L'objectif est plutôt d'instrumentaliser un prétexte pour être en mesure de casser la manifestation, de réprimer la manifestation au moment où elle a lieu. Donc, dans l'absolu, j'ai l'impression que pour les dirigeants du SPVM, à savoir si les manifestants et les manifestantes ont véritablement été en infraction du règlement P6 ou que de l'article 500.1 du Code de sécurité routière, n'est pas en soi une préoccupation qui les occupe. C'est plutôt le fait de s'assurer d'avoir un prétexte, une justificatif pour être en mesure d'intervenir violemment, comme on l'a vu dans les dernières semaines, qui est le plus important actuellement pour la SPVM. Et ça, encore aujourd'hui, le règlement P6 le permet entièrement.
Ok. Alors, on va aller un peu sur les événements. C'est vrai que le mouvement de grève ce dernier mois a été vraiment focalisé sur l'UQAM. On va aller un peu sur l'UQAM. Comment considérez-vous tout simplement les procédures menées comme à Hamza Abou? Est-ce que pour vous, c'est de la répression politique?
Mais moi, il faut savoir que je suis juriste de formation. Donc, pour moi, les considérations liées, entre autres, à l'équité procédurale sont des considérations excessivement importantes. Souvent, le processus judiciaire doit être aussi légitime et aussi juste que le résultat pour s'assurer justement de la justesse du résultat. Donc, actuellement, à l'UQAM, il faut savoir que d'un point de vue purement procédural, les processus disciplinaires sont excessivement douteuses. Notamment, il faut savoir que les 9 personnes qui sont visées par les avis de convocation pour éventuellement être expulsées de l'UQAM n'ont jamais eu accès à la preuve, entre autres, qui permet à l'UQAM d'appuyer justement la décision de les convoquer. Ces personnes-là n'ont pas le droit non plus à un avocat au moment de l'audience disciplinaire. Ces personnes-là ne peuvent même pas savoir quels seront les critères qui permettront à la direction de déterminer si oui ou non elles doivent faire l'objet de sanctions
Du
disciplinaires.
coup, où en est la procédure pour ces 9 personnes?
Présentement, en fait, ces personnes avaient été convoquées pour la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Finalement, le comité exécutif de l'UQAM a décidé de remettre ces audiences-là à une date ultérieure. En fait, les dates ne sont pas encore précisées. La décision qui avait été rendue était que, à partir du 24 avril, si je me souviens bien, il devenait possible de justement faire de convoquer, pardon, les personnes visées. Donc, c'est là où est-ce que nous en sommes rendus actuellement. Il n'y a pas eu encore d'audience qui ont eu lieu, et c'est sûr que pour les personnes qui sont visées par ces avis de convocation-là, on parle d'un stress extrême. On parle de personnes qui sont toutes ambitieuses de leur vie académique, universitaire et même professionnelle. Par conséquent, le fait de pouvoir être renvoyé à vie d'université alors que, bon, il reste par exemple une session ou deux à compléter pour obtenir son diplôme, est quelque chose d'excessivement dramatique.
Pour ma dernière question, je vais vous demander comment dans un mouvement étudiant comme ça, on a vu, il y a eu une véritable dégradation des relations entre étudiants et administration dans des lieux qui sont assez symboliques comme l'UQAM, le Cégep du Vieux-Montréal, le Cégep Saint-Laurent, où il y avait avant des soutiens des administrations dans les mouvements de grève. Pourquoi en 2015, cette année-là, ça ne marche plus? Et pourquoi il y a une cassure entre les administrations et les étudiants dans les organisations étudiantes dans les relations?
Ben en fait, faut savoir que, à mon humble avis, du moins, il n'y a jamais eu un soutien exprimé publiquement des administrations dans les dernières années, du moins, par rapport à des mouvements de grève, notamment si je pense à 2012, entre autres. Ce qu'on a plutôt vu, du moins à l'UQAM, encore une fois, c'était une administration qui était plutôt passive et qui jouait un rôle de neutralité. Donc, l'administration comme telle n'était pas un opposant politique définitif, si vous voulez. C'était plutôt le gouvernement du Québec qui était d'abord et avant tout notre opposant politique premier. Maintenant, en 2015, indéniablement, il y a eu un changement à ce niveau-là. Comment l'expliquer sans vouloir rentrer dans la théorie du complot? Il y a effectivement matière à se demander si il n'y aurait pas une commande politique venant du gouvernement du Québec et du ministère de l'Éducation. Par contre, je n'ai aucune preuve pour pouvoir appuyer mes dires, donc pour l'instant, ce n'est qu'une expectative, que l'extrapolation. Par contre, indéniablement, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre 2012 et 2015 dans la gestion de la crise par l'administration à l'UQAM, entre autres. Et on va continuer à chercher pour essayer de trouver des explications plus concrètes.